Les propos de Manuel Valls dans le journal Le Monde font réagir les loyalistes et le Rassemblement. Le ministre des Outre-mer affirme que l'accord de Nouméa est une trajectoire allant d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière. Les enseignants se retrouvent dans leurs établissements scolaires à 3 jours de la rentrée. Nous en parlerons dans nos pages spéciales rentrée scolaire. L'appel du gouvernement aux soignants, il les incite à rejoindre la réserve sanitaire locale. En métropole, le projet de loi sur la justice des mineurs adopté en première lecture, il prévoit de lutter plus efficacement contre l'hyperviolence des jeunes. Laurent Wauquiez entre à son tour en campagne. Après Bruno Retailleau, il se lance à la course pour la présidence des Républicains. Et puis en sport, la super performance du jeune Calédonien Kéril Moutry aux Océania de cyclisme sur piste à Brisbane. Face à des coureurs professionnels, il décroche une médaille de bronze. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et cette semaine, vous recevrez Sonia Backès.
Sonia Backès qui est tout juste rentrée de Paris et qui sera ce midi effectivement l'invitée de Transparence. Elle sera interrogée bien sûr sur le déroulement des discussions bilatérales pour lesquelles elle conduisait la délégation loyaliste. Nous l'interrogerons sur l'ambiance qui a prévalu à Paris, sur la suite du processus, mais aussi sur les déclarations de Manuel Valls et sur la prochaine visite du ministre des Outre-mer qui est attendue le 22 février. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie de Sonia Backès. C'est juste après votre journal.
Des sujets qui en partie seront aussi commentés dans le Club politique Radio Rythme Bleu.
Évidemment, au sommaire du Club politique, le bilan de ces discussions bilatérales et les déclarations de Manuel Valls. Nous nous interrogerons sur ce qu'il faut attendre de la visite du ministre des Outre-mer. Et puis nous reviendrons également sur le forum économique qui s'est déroulé samedi dernier. Et comme nous n'en avons pas eu le temps depuis la reprise du Club politique, nous essaierons de parler aussi, si nous en avons le temps, du début du nouveau mandat de Donald Trump. Un Club politique qui débute cet après-midi à 16h45.
L'actualité politique toujours avec cette déclaration « Respecter l'accord de Nouméa, c'est respecter le choix des Calédoniens ». C'est ce que disent les loyalistes et le Rassemblement qui affirment que la Nouvelle-Calédonie est et restera française. Ils réagissent à des propos de Manuel Valls dans un récent article du Monde. Le ministre des Outre-mer y déclare que l'accord de Nouméa est une trajectoire qui va d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière.
Une déclaration surprenante venant d'un ancien Premier ministre qui méconnaît l'esprit de cet accord et balaie d'un revers de main la volonté des Calédoniens. C'est ce qu'indiquent les loyalistes et le Rassemblement qui s'étonnent qu'un ministre d'État, garant des valeurs démocratiques de la République, puisse ainsi mettre de côté les 3 votes clairs, libres et souverains du peuple calédonien. Ils rappellent qu'à 3 reprises, les Calédoniens ont choisi massivement de rester français et ils affirment qu'en voulant ménager les indépendantistes les plus radicaux, Manuel Valls trahit l'esprit même de l'accord de Nouméa et valide le discours de ceux qui ont pillé, brûlé et détruit la Nouvelle-Calédonie. Mais pour les loyalistes et le Rassemblement, la réalité est implacable. L'accord de Nouméa est clos et l'État doit désormais prendre ses responsabilités. Les Calédoniens ont tranché, rappelle-t-il. La Nouvelle-Calédonie est et restera française. Il est temps d'en tirer toutes les conséquences et de bâtir une architecture institutionnelle qui respecte enfin cette réalité. Fin de citation de ce communiqué.
Il est 11h34, on ouvre une page spéciale rentrée scolaire.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée a pris fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1500 francs en bon d'achat. Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Notre page spéciale rentrée scolaire alors que les élèves vont retrouver le chemin des cours lundi prochain, mais les enseignants, eux, font déjà leur rentrée. La plupart d'entre eux se retrouvent aujourd'hui dans leur établissement scolaire, Charlotte Coulson.
Quels sont les enjeux pour cette rentrée? Comment se préparer à accueillir les élèves? Ce sont le point qui était abordé ce matin par Gilles Luquewé, le proviseur du lycée La Pérouse, lors d'une réunion de pré-rentrée. Elle réunissait tous les personnels de l'établissement, plus d'une centaine de professeurs qui gardent bien en tête l'année mouvementée qu'ils ont passée en 2024.
Plutôt content de rentrer, en espérant que c'est une rentrée sereine, comme l'a annoncé le proviseur, par rapport à ce qui s'est passé en 2024. Donc on espère d'avoir une année sereine et partir de bon pied pour qu'on mène nos élèves et nos étudiants à l'excellence, comme l'a annoncé le proviseur.
Il nous a accueillis en nous rappelant ce qu'on a vécu l'année dernière et puis nous expliquant que il y a eu pas mal de budgets qui ont été beaucoup réduits et quelquefois qui ne sont pas encore versés aussi. Donc il y aura forcément des répercussions sur la gestion des projets, mais aussi pour les aides qu'ont les élèves, les étudiants. Bon, je pense qu'en ayant vécu ce qu'on a vécu l'année dernière et puis la reprise, tout le monde est dans l'attente et on espère que ça va être une année plus simple. Mais voilà, on a aussi du coup acquis une expérience.
C'est une année nouvelle, c'est une année aussi particulière après une année qui a bougé l'année dernière. Donc on se prépare un peu à l'avance. Il y a un travail en amont.
Vous avez hâte de retrouver les élèves ?
Hâte de les retrouver, bien sûr.
Et ce sont près de 1600 élèves et étudiants que les professeurs du lycée La Pérouse accueilleront progressivement à partir de ce lundi 17 février.
Et les établissements scolaires de l'ADEC préparent aussi leur rentrée. Nous avons fait le point ce matin avec le directeur de l'enseignement catholique, Manuel Van Arscott, qui fera lui sa première rentrée à la tête de la direction diocésaine de l'enseignement catholique.
Cette année, nous allons accueillir un peu plus de 12 000 élèves. Nous connaissons une diminution d'environ 400 inscriptions, qui sont dues essentiellement par les causes démographiques. Évidemment, je ne nie pas l'impact des mouvements de population, mais qui sont quand même assez relativement restreints. Cette diminution au primaire est essentiellement concentrée sur la province sud. Malgré tout, nous avons dû nous adapter également à cette fameuse baisse démographique que tout le monde connaît depuis quelques années. Pour nous adapter à toutes ces contraintes financières, budgétaires et sociales, nous avons dû fermer 4 résidences scolaires pour nous recentrer sur les autres. On a fermé notre petite école de Sainte-Marie à Mouly-Ouvéa et également le lycée Joanna Vaquier à Wailou. Voilà. Mais nous l'avons fait avec les partenaires locaux, avec une discussion, avec une remise en poste ailleurs ou sur site, ou un accompagnement des divers personnels, les parents.
Et comme chaque année, l'ADEC opère quelques ajustements dans l'organisation des établissements, mais assure que tous les élèves seront accueillis dans les meilleures conditions. Après une année 2024 marquée par le placement au chômage partiel des 500 membres du personnel non-enseignant de l'ADEC. Et puis après Nouméa, Païta et Le Mont d'Or, on s'intéresse dans cette page spéciale à la rentrée à Dembéa. 3600 élèves environ sont scolarisés dans la commune pour cette rentrée 2024, Nicolas Legrand.
Oui, des effectifs en baisse dans cette commune qui a été particulièrement touchée par les violences de mai 2024. C'est pourquoi l'équipe municipale a dû s'adapter pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions dès lundi prochain. Écoutez Pierre Mestre, il est adjoint au maire de Dembéa en charge de la réussite éducative.
Les écoles seront prêtes à ouvrir, hormis l'école de Gréland, puisqu'elle avait été intégralement détruite et qui sera reconstruite avec une réouverture prévue pour la rentrée 2026. Et l'autre école impactée, qui était l'école Minguet, où c'est la salle des maîtres, la cantine et d'autres salles de l'école qui avaient été incendiées. Là, les travaux se feront pendant l'année 2025 avec une réouverture fin 2025. Malheureusement, les crédits nous permettant la réalisation des travaux ne sont pas encore sur les comptes de la mairie de Dembéa. Donc tant qu'on n'a pas les sous, malheureusement, on ne peut pas reconstruire. Donc on les attend avec impatience, ces crédits. Mais l'ensemble des autres écoles sont prêtes. Les classes sont livrées, les fournitures sont prêtes, les inscriptions pour la cantine et les repas sont commandés. Tout se passera bien à Dembéa. Voilà, les enfants sont accueillis dans les meilleures conditions possibles.
Et entre 3600 et 3700 élèves sont donc inscrits pour cette rentrée scolaire, alors que les effectifs avant le 13 mai 2024 tournaient autour de 4100 jeunes qui fréquentaient les établissements scolaires de la commune.
On a moins d'élèves. Il y a eu beaucoup d'élèves qui ont quitté la commune. Il y a moins 377 élèves inscrits à l'heure où je vous parle sur la commune de Dembéa, avec des disparités dans certaines zones. En fait, l'école de Gréland, les élèves sont toujours inscrits à l'école de Gréland. C'est juste qu'on va les redispatcher sur les écoles autour. Donc c'est sûr que les effectifs de ces écoles vont augmenter un peu. Mais il y a des secteurs comme Dembéa-sur-Mer ou Dembéa-Centre où il y a une petite baisse d'effectifs et cumulé sur l'ensemble de la commune, il y a une baisse à peu près de 10 à 15% d'élèves en moins par rapport à 2024. Mais il y aura, en nombre de classes, il n'y a pas de fermeture de classe plus que nécessaire. Il y a une maternelle qui ferme et ça c'est dû à renouvellement des cohortes d'élèves. Il y a une petite section qui ferme sur l'école orangée et c'est tout.
Et au-delà des enseignements pour la mairie de Dembéa, la réussite de la jeunesse passe aussi par les activités périscolaires, nous a dit Pierre Mestre.
Elles sont maintenues, toutes. C'est-à-dire que la garderie est maintenue sur les heures habituelles existant avant. C'est-à-dire qu'il y a une garderie le matin, une garderie le soir et une garderie le mercredi midi. Tout ce qui est les activités de veille éducative et d'accompagnement à scolarité sont maintenues. Et après, toutes les activités extrascolaires, avec les clubs sportifs, les associations, sont également maintenues, malgré le fait que certaines installations sportives aient été dégradées. Et que, pareil, l'année 2025 sera aussi l'année de la reconstruction de ces infrastructures. Il y aura tout ce qui est les activités sportives, culturelles, seront maintenues sur la ville de Dembéa, de manière à ce que notre jeunesse s'occupe le plus utilement et le plus sainement possible.
À Dembéa, les effectifs en personnel enseignant ainsi que pour l'ensemble de la communauté éducative restent stables.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Comprenez-vous que la province sud soit obligée de réduire les aides scolaires en raison de la situation budgétaire créée par les émeutes? Si vous le comprenez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 61% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les conditions sont réunies pour que la rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions. Ils sont 39% à penser que ce n'est pas le cas.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Il est 11h41, une première pause dans ce journal. Dans un instant, on revient sur le reste de l'actualité en Calédonie et notamment sur le débat d'orientation budgétaire hier soir au Conseil municipal du Mont-d'Or.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Urgence, pouvoir d'achat. Vous entendez ? C'est la rentrée ! Mais c'est aussi et surtout l'occasion de participer à notre grand jeu spécial rentrée jusqu'au 23 février pour gagner plus d'1 million de francs de cadeaux. Pour jouer, rendez-vous dans votre magasin Hyper Upaïta et remplissez le bulletin de jeu sur l'une des bandes sur place. Jeu sans obligation d'achat, règlement disponible en magasin, tirage au sort le 24 février. Suivez toute notre actualité sur notre page Facebook et profitez de nos promos rentrée des classes dans notre catalogue. Hyper U, sortie Upaïta Centre.
U, commerçant, autrement.
Vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Rouf au 25 07 00. Retrouvez le menu spécial Saint-Valentin sur la page Facebook Le Rouf.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Débat d'orientation budgétaire hier soir pour les élus du conseil municipal du Mont-d'Or, sans les élus de l'opposition municipale, à l'exception de Pételosao, de l'Éveil océanien. Comme l'ensemble des communes de Calédonie, et sans surprise, le Mont-d'Or fait face à un contexte économique extrêmement tendu. Contexte tendu à la suite des émeutes qui ont débuté en mai 2024. Écoutez, le maire de la commune du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux.
C'est une situation compliquée. Je ne vais pas dire critique, parce que la critique serait que le mois prochain, on n'arrive pas à voter notre budget, mais on va le voter. Juste dire qu'il y a 6 ans de ça, 7 ans de ça, on avait une enveloppe, on avait un budget qui s'élevait à presque 7 milliards. Il y a 4 ans, c'était 6 milliards et aujourd'hui, c'est 5 milliards. Je crois que tout le monde comprend que donc on a réussi à faire un budget de 5 milliards en recettes et en dépenses. Et puis surtout, on arrive à conserver des axes. Voilà, comme j'ai souhaité l'action sociale. J'ai souhaité que dans l'aide au développement économique, en tous les cas l'accompagnement à nos commerces, à nos entreprises, et puis la sécurité des concitoyens, un renforcement ou du moins un accompagnement dans la sécurité, avec des conventions qu'on vient de signer avec l'État par exemple.
C'est donc un budget d'environ 5 milliards de francs qui a été construit par les services de la commune, un budget 2025 qui se fera sans que la commune ait recours à l'emprunt, mais en préservant les grandes priorités fixées par l'exécutif, expliqué dit Le Courrieux.
Nous sommes au maximum de l'emprunt. On ne pouvait pas à nouveau réemprunter si ce n'est que mettre la situation de la commune dans le rouge, rouge vif. Là, on arrive à avoir des ratios financiers qui sont encore intéressants. On a réussi à restreindre considérablement notre fonctionnement. Moins 7% l'année dernière, moins 10% cette année. On a fait en sorte que le personnel soit également restreint. Il fallait démontrer aux organismes prêteurs quand on était prêt à faire tous les efforts. On arrivera dans cette mandature à travailler sur le centre d'incendie et de secours, dont on va commencer les études cette année, la DARS du Vallon d'Or, donc un projet d'un milliard et demi, l'extension du cimetière communal, et puis bien évidemment les entretiens du parc communal en termes de véhicules comme en termes de bâtiments.
Le budget primitif 2025 de la commune du Mont-d'Or sera examiné le 13 mars prochain par les élus municipaux. Face à la pénurie de soignants, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lance un appel à volontaires pour intégrer la réserve sanitaire locale, Léo Fichou.
Depuis la crise de mai dernier, les difficultés de recrutement se sont accentuées et une pénurie fait craindre une détérioration de la qualité des soins. Alors, comme lors de la crise Covid, le gouvernement lance sa réserve sanitaire locale. Tous les profils sont recherchés. Les explications de Claude Gambet, membre du gouvernement en charge notamment de la santé.
Nous avons actuellement une grosse pénurie de personnel soignant, notamment d'infirmières. Plus de 150 infirmières manquent à nos services et plus d'une centaine de médecins. Tous les personnels, notamment qui sont en retraite, sont les bienvenus. Les corps de métier les plus importants sont surtout les médecins et les infirmiers. Maintenant, nous avons également des besoins en matière de chirurgie dentaire, de masseurs-kinésithérapeutes et de sages-femmes. C'est un des leviers pour répondre à la question de la pénurie. Il y a également d'autres leviers qui vont être actionnés. Hein. Nous sommes en contact également avec l'État pour la réserve sanitaire cette fois-ci nationale. Et j'envisage éventuellement de me déplacer dans le cadre d'une mission de prospection, directement en contact des facultés de médecine et des IFSI, des instituts de formation.
Et pour vous faire connaître, vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou bien vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, attention, écoutez bien, drhfpnc.sgrh@gouv.nc. On vous mettra l'adresse mail sur notre site internet rrb.nc.
Et comment ne pas parler aujourd'hui de la fête des amoureux ? C'est en effet aujourd'hui la Saint-Valentin et l'occasion pour les couples de se retrouver à deux autour d'un repas ou avec des petits cadeaux. Comment les Calédoniens célèbrent leur union ? Est-ce une fête importante pour tous les couples ? Le mieux, c'est de leur poser la question.
On a pensé à la fête de la Saint-Valentin, donc on a prévu de faire un petit resto ce midi.
On l'a fête, mais à la maison, avec ma femme et mes enfants. Voilà, je vais préparer un bon repas. On a toujours des bonnes attentions, même envers nos enfants aussi.
J'ai déjà trouvé le cadeau, donc... ça va. En soi, la Saint-Valentin, ouais, c'est la fête des amoureux, mais on ne la fête pas forcément tous les ans.
Non, moi, je pète jamais la Saint-Valentin. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. On n'attend pas la Saint-Valentin pour s'offrir des cadeaux, se dire qu'on est là l'un pour l'autre. Donc, non.
Oui, j'ai pris une petite bouteille pour ce soir.
Foie gras, il est prévu, ouais.
Voilà, se retrouver et puis replonger dans les débuts, les souvenirs, raviver la flamme, bon.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson et pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur Valentin ou leur Valentine, des speed dating ou des soirées Saint-Valentin sont organisées dans la plupart des bars et boîtes de Nouméa.
À Radio Rythme Bleu, 11h48.
L'actualité dans la région et le nord-ouest de l'Australie sous la menace du cyclone Zélia. Il devrait toucher les côtes dans la soirée. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cyclone de 5e catégorie sur une échelle de 5. Zélia se trouvait ce matin à environ 100 km au nord du grand port minéralier de Port Hedland. Sa pression au centre était de 928 hectopascales et il se déplaçait lentement vers le sud-est à 1 km/h. Il était alors accompagné de fortes pluies et de vents de 220 km/h avec des pointes à 285 km/h. Par précaution, l'aéroport et toutes les écoles de Port Hedland sont fermées. Selon les prévisionnistes du bureau météo, Zélia devrait toucher terre en courant de soirée entre Port Hedland et Karratha. En plus de fortes pluies, il générera alors sur son passage des vents destructeurs susceptibles d'atteindre les 320 km/h. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h49, on va se retrouver après une nouvelle pause pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Envie de 12 mois gourmands jusqu'au 15 mars, c'est le moment de tenter votre chance avec la Niçoise. 3 gagnants au tirage au sort pour 1 an, 1 mois ou une semaine de délicieux repas pour deux. Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook La Niçoise et lancez-vous. En plus, si vous êtes déjà client, vos chances de gagner doublent. C'est gratuit et sans obligation d'achat. La Niçoise prend soin de vous.
Du lundi au vendredi de 16h à 19h sur RRB, suivez le Tout Info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, le vert, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Cette Saint-Valentin, offrez plus qu'un cadeau, offrez une émotion. La Cabosse d'Or vous propose des chocolats artisanaux fendants et raffinés, parfaits pour dire je t'aime. Faites fondre son cœur avec le plaisir du chocolat. Rendez-vous, 31 route du Vélodrome, téléphone 26 39 38.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Mag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Le projet de loi qui vise à durcir la justice des mineurs franchit une première étape. Le texte porté par Gabriel Attal a été approuvé par les députés en première lecture. Parmi les mesures phares, la création d'une comparution immédiate pour les mineurs de moins de 16 ans qui ont commis des faits graves, ou encore la fin de l'excuse de minorité pour les mineurs de moins de 16 ans multirécidivistes. Un texte soutenu publiquement par les parents du jeune Elias, 14 ans, tué à Paris fin janvier par deux mineurs récidivistes. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Selon les parents d'Elias, la mort de leur fils montre, je cite, que l'État ne sait plus protéger ses citoyens. Ils estiment que les deux agresseurs de leur fils, déjà très défavorablement connus des services de police, n'auraient jamais dû se trouver en liberté. Leur avocat, Nicolas Goutte, c'était ce matin l'invité de Pascal Pro et vous pour relayer leurs paroles.
Ce communiqué, il traduit les interrogations qu'ils ont, les futures réponses qui seront sans doute inaudibles quant à la responsabilité de l'État, la nécessité d'apporter une réponse pénale qui soit ferme parce qu'ils ont besoin de ça aussi. C'est vraiment, on va se battre, et on va se battre pour une cause qui nous anime tous et qui est la protection des mineurs.
Outre cet appel au sursaut politique, les parents d'Elias reviennent également sur le déroulé de l'agression. Ils assurent que l'arme utilisée contre leur fils était une machette, alors que l'enquête parlait jusqu'ici d'un couteau. Ils affirment par ailleurs qu'Elias a donné son téléphone portable à ses agresseurs sans opposer une quelconque résistance, contrairement à ce qui était affirmé jusqu'ici. Selon eux, le coup de machette fatale a donc été porté gratuitement par les agresseurs d'Elias.
L'actualité politique et Laurent Wauquiez entrent en campagne. Deux jours après la candidature déclarée de Bruno Retailleau, c'est donc le chef de file des députés LR qui se lance dans la course à la présidence du parti. Il a réuni ses partisans pour un premier meeting à Valence.
Mon choix est fait, ce sera Laurent Wauquiez parce qu'on a son travail à la région qui est fait depuis un bon moment. Il a toujours été droit dans ses bottes, il a toujours dit ce qu'il faisait. Il a redressé la région. Moi, je suis convaincu par son travail et s'il pouvait faire la même chose en France, ce serait parfait.
C'est un personnage, tout ce qu'il a entrepris, il l'a amené à fond. Quoi. Et la région, tout ce qu'il fait, il le fait, il le fait bien.
Donc il serait à sa place, à la tête du parti.
Bien sûr, il le mérite, oui, bien sûr.
S'ils vont prendre une position concordante pour que la droite, dans son ensemble, se réunisse. Parce que sinon, c'est la machine à perdre, comme d'habitude.
La droite la plus bête du monde, ce qu'on dit.
Exactement.
Et vous avez peur de ça?
C'est déjà ce qui s'est passé aux législatives. On n'a pas voulu suivre Ciotti. Et voilà, la situation, on n'a pas de majorité. On n'y arrive pas.
Laurent Wauquiez face à Bruno Retailleau, un duel des chefs qui sera tranché par les militants probablement au mois de mai. Laurent Wauquiez met en avant sa connaissance du terrain et explique que son adversaire doit lui se consacrer entièrement à sa tâche place Beauvau. Alors que le Parlement arrive au bout des textes budgétaires, la dépense publique est en roue libre. C'est le constat dressé par la Cour des comptes. Les objectifs fixés, à savoir le retour à un déficit public à 5,4% et à moins de 3% en 2029, semblent difficilement atteignables selon les sages, même selon les scénarios les plus réalistes. Barthélémy Philippe.
Premier scénario, le gouvernement réalise seulement la moitié des 110 milliards d'euros d'économies nécessaires pour repasser le déficit public sous la barre des 3% de PIB en 2029. Le déficit baisse, mais seulement à 4,5% du PIB contre 6% actuellement. Scénario 2, le gouvernement fait la moitié du chemin avec une croissance plus faible que prévu. En 2029, le déficit public atteindrait 5,3% et la dette 130% du PIB. Le poids des intérêts serait alors insoutenable, prévient Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes.
Nous risquons d'avoir une charge de la dette de 110 milliards d'euros en 2029, ce qui est vertigineux.
Et pour la première fois, Pierre Moscovici a même agité le spectre d'une crise à la grecque.
On ne peut pas continuer comme ça. Si nous ne faisons pas les efforts, ça nous sera imposé par l'extérieur, par les marchés. Je préfère qu'on fasse des efforts volontaires plutôt qu'à un moment donné, nous trouver obligés d'agir sous la contrainte. C'est à ce moment-là qu'arrive la vraie austérité. L'austérité, c'est toujours une crise économique, une crise sociale, une crise politique.
Avis à LFI qui dénonce le budget le plus austéritaire de la Ve République alors que la dépense publique augmente et que les économies reposent principalement sur des hausses d'impôts.
Et puis l'actualité à l'étranger avec une nouvelle attaque à la voiture Bélier en Allemagne. Un homme a foncé dans un cortège de manifestants avec son véhicule. Il a blessé 30 personnes. 8 sont dans un état grave. L'assaillant est un demandeur d'asile. On fait le point avec Christophe Bouchin pour Europe 1.
Et il était connu par la police pour des affaires de drogue et de vol à l'étalage. Selon des médias allemands, il s'agirait de Farhad Ed, né à Kaboul et arrivé en Allemagne fin 2016. Sa demande d'asile avait été rejetée, mais il bénéficierait d'une protection subsidiaire suspendant son expulsion. D'après le quotidien Spiegel, il aurait publié des messages dits islamistes sur les réseaux sociaux avant l'attaque. Et le chancelier allemand Olaf Scholz a réagi à ce qu'il a qualifié de terrible attentat et a promis d'expulser l'auteur présumé des faits.
Il est important pour moi de dire que toute personne qui commet des crimes en Allemagne sera non seulement sévèrement punie et envoyée en prison, mais devra également s'attendre à ne pas pouvoir rester en Allemagne. Cela s'applique également aux pays où il est très difficile de rapatrier quelqu'un.
C'était vers 10h30 que le chauffeur a foncé dans une foule de manifestants, un mode opératoire similaire à l'attentat du marché de Noël de Magdebourg il y a un mois, perpétré par un réfugié saoudien qui avait fait 6 morts. Et cet attentat survient également à 10 jours des élections législatives dans le pays, déjà fortement dominé par les questions d'immigration et de sécurité intérieure.
À 11h56, on marque une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité sportive. Ensuite, on retrouvera le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Taneo fait sa rentrée avec vous. Les bus circuleront à partir du lundi 10 février avec des nouveautés. Des lignes adaptées à vos besoins en déplacement, une offre concentrée sur les heures de pointe, le retour des plafonds tarifaires pour un porte-monnaie transport maîtrisé. Retrouvez sur le site taneo.nc le plan des lignes, les horaires et les nouveaux tarifs. À très vite sur nos lignes.
Faire plaisir à votre moitié pour la Saint-Valentin, déclarer votre amour, c'est chez Happy Flower. Roses éternelles, fleurs fraîches, bouquets, toutes vos idées sont chez Happy Flower à Ducos, en face de Bureau Vallée. Téléphone 27 20 80. La Saint-Valentin, c'est chez Happy Flower. Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, avec du cyclisme à la une aujourd'hui, la délégation calédonienne ne rentrera pas bredouille des Océanias de cyclisme sur piste qui ont lieu à Brisbane. Kéryl Moutry est monté sur le podium de la course au point, Léo Fichou.
Le Calédonien a décroché la médaille de bronze, sa première médaille internationale, terminant à seulement un petit point d'un cycliste australien professionnel, Bailey McDonald. C'est un autre Australien, Samuel Washington, qui s'est imposé sur la course au point. Et pour Stéphane Coulon, récemment élu président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie, Kéryl Moutry a réalisé un véritable exploit.
Pour une de la sélection calédonienne, c'est un exploit retentissant de voir Kéryl obtenir cette médaille de bronze au championnat d'Océanie, parce que le niveau est très élevé. Vous avez la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui font partie des meilleures nations en cyclisme sur piste. Ça fait suite déjà des bons résultats obtenus au Chemin de France en octobre dernier. Cette médaille, en fait, c'est le résultat non seulement du coureur, mais c'est aussi le résultat de toute l'application des gens qui sont derrière pour faire progresser nos jeunes.
Et un Moutry peut en cacher un autre dans cette finale de la course au point. Kéryl a donc terminé 3e, son frère Kéryan a terminé 12e. La délégation calédonienne est également composée de trois autres jeunes pistards. On retrouve Stéphane Coulon.
On a Hugo Pommelet, Louis Chavy et Hervé Salin, qui ont tous d'ailleurs pour l'instant plutôt couru très honorablement. À chaque fois avec des places d'honneur au niveau où on peut voir les coureurs étrangers sur la zone océanienne courir. Je trouve que voir nos jeunes se confronter à ce niveau-là et avoir des résultats plutôt honorables est encourageant pour l'avenir.
Et les Océaniens en Australie continuent jusqu'à demain pour les frères Moutry, Hugo Pommelet, Louis Chavitz et Hervé Salin.